Pleine Feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Victor Hugo vient de mourir. De Judith Pérignon. Aux éditions de l'Iconoclaste. C'est l'introduction de Victor Hugo au recueil Les Contemplations. Si un auteur pouvait avoir quelques droits d'influer sur la disposition d'esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l'auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci. Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. 25 années sont dans ces deux volumes. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelque prétention, les mémoires d'une âme. Ce sont en effet toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience, revenus et rappelés, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lueur, en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot, et finit par un bruit de clairon de l'abîme. Une destinée est écrite là, jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez de nous leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. C'était l'introduction de Victor Hugo au recueil Les Contemplations. Je suis retombée dessus ce matin pour préparer cette émission et j'ai l'impression que ça contenait toute l'intention d'Hugo, tout ce qu'on sent quand on le lit. Et comme moi, je me suis penchée sur le moment de sa mort, un moment où on résume forcément la vie de quelqu'un et aussi tout ce qu'il laisse, la trace, les écrits. Mais je crois qu'il avait tout préparé avant même que ça n'arrive. Hein. Et j'ai trouvé vraiment ce texte magnifique. Moi, j'ai installé Hugo dans ma vie petite fille. Voilà, c'était un grand poète. Je connaissais pas tout, je suis pas devenue une spécialiste d'ailleurs, mais j'avais un rapport affectif dès l'enfance à Victor Hugo. Comme beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs commencent dans l'enfance avec lui. Et il y a quelques années, je me souviens avoir dit à l'éditrice, mais c'est étrange ces funérailles dont on nous parle régulièrement. Un jour, je me pencherai dessus. Et je me suis penchée dessus et pour raconter un moment qui était beaucoup plus compliqué et qu'on ne veut bien le dire. Il y a beaucoup de recherches au départ, il y a presque 2 ans de recherche, et en même temps une envie d'écrire un roman, parce que moi c'est la manière dont j'aime écrire, et ça me vient sûrement de ce goût de l'enfance que m'a donné Hugo. Moi j'aime la musique de l'écriture, donc il n'était pas question d'aller écrire autrement que par le roman, par le récit, par des personnages, des dialogues. Et le roman permet, je crois, de raconter ce moment dans toutes ses contradictions. C'est très épique, c'est très politique, c'est très épique, c'est très émouvant. Et je pense que le roman est le mieux à même de rentrer, faire une espèce de 3D de ce grand moment de l'histoire de France. Le livre commence par l'agonie de Victor Hugo. On annonce que Victor Hugo est malade le 18 mai 1885. Et l'agonie de Victor Hugo va durer jusqu'au 22 mai, donc c'est presque une semaine. Et tout le monde va rester suspendu au bulletin de santé, il y en a plusieurs par jour. Mais tout le monde, je vous dis, du gouvernement, du président de la République, au moindre ouvrier, au brigadier devant chez lui, à ses proches évidemment autour de son lit. Et effectivement, rarement Des gens aussi différents se sentent concernés par les mêmes événements. Et cet événement-là concernait tout le monde. Et ça c'est passionnant, et le roman permet de faire vivre à l'intériorité des personnages, essayer de comprendre ce que cet homme, Victor Hugo, avait installé en chacun de nous, à cette époque et aussi aujourd'hui au fond. Qu'on l'ait lu ou qu'on l'ait pas lu d'ailleurs.
Nous allons vous entendre lire les premières pages de Victor Hugo vient de mourir.
Ils ont peur déjà. Le désordre vient si vite. Depuis la veille, les officiers de paix en faction devant l'hôtel particulier récupèrent les bulletins médicaux dans le vestibule. Ils en font des rapports qui finissent sur les bureaux de la préfecture. Ils sont signés Fégé, chef de la brigade du 16e arrondissement. « Nuit relativement calme », dit le dernier, publié à 7h30 ce matin. Mais dans Paris, partout les crieurs de journaux annoncent la fin. Au point qu'un commissaire de police s'en inquiète, envoie un télégramme au cabinet du préfet. Ne faut-il pas les interdire ? Ce matin même, rue Charlot, un opticien a demandé à un gardien de la paix d'interpeller le colporteur du cri du peuple, qui hurlait les derniers instants. Il ne voulait rien entendre de tel. Il a bouclé sa boutique, escorté l'agent et le vendeur jusqu'au commissariat. Nom, prénom, adresse ? Lefèvre Théodore, 39 ans, passage du génie, numéro 10, a bougonné le crieur. Un peu plus tard, même scène rue Martin. Un brigadier est accosté par plusieurs personnes indignées qui lui désignent l'homme qui marche, journal à bout de bras, messager de l'inéluctable. Tout autour, la foule est comme la porcelaine. Soudain fragile, « Monsieur l'agent, arrêtez-le, faites-le taire !» Elle voudrait retenir les jours, même s'il n'en reste que 3, que 2, même si c'est pour demain. Encore une fois, le brigadier mène le vendeur devant un commissaire de police. Nom, prénom, adresse ? Saloisy Adolphe, rue de Crimée, 76, répond le colporteur. Le commissaire le sermonne puis le renvoie dans la rue. Rien d'illégal, ni le journal, ni ce qu'il raconte. Victor Hugo va mourir. Ça se passe de l'autre côté de la ville, dans les beaux quartiers, aux 50 de l'avenue qui porte déjà son nom. La foule grossit devant chez lui. Un curieux mélange de gens qui s'attardent ou ne font que passer. Ils sont venus écouter le récit de l'agonie. Ils lèvent les yeux vers les fenêtres fermées où ils l'ont aperçu déjà, debout, saluant. Ils palpent l'absence, le silence, la mort qui œuvre à l'intérieur et les laisse vivants, vaguement effarés, avec ou sans chapeau, avec ou sans rang, comme des personnages en quête d'auteur. Parfois même, ils tendent une main vers le haut du jardin, arrachent les feuilles de lierre qui débordent. La feuille se laisse prendre, telle une relique. La liane se laisse faire, robuste et toujours verte. Elle court sur les murs, increvable, elle. Elle s'en va jusqu'à la fenêtre du mourant, qu'on n'ouvre plus. Passe le vieux général polonais invalide, célèbre dans tout Paris pour sa voiture traînée par deux moutons. Il stoppe ses mérinos et réclame qu'on lui apporte le registre, afin qu'il puisse témoigner de sa sympathie. Il signe et s'en va. Entre dans la maison le ministre des Affaires étrangères. Il ne monte pas. La chambre ne laisse plus pénétrer que la famille et les très proches. Il signe à son tour le registre, dépose sa carte, et puisqu'il n'a pas le temps d'attendre qu'on veuille bien le recevoir, prend quelques nouvelles auprès de la vieille bonne qui s'est postée sur le pas de la porte ouverte en permanence. Elle soupire qu'il est bien naturel que les serviteurs soient doux et accueillants dans la maison d'un tel homme. Viennent tous ceux qui ne laisseront aucune trace. Ils ne sont pas les moins tristes, ces ouvriers et ouvrières s'arrêtant un instant sur le chemin du travail et demandant sous la porte du petit hôtel « Comment va-t-il ?» Qu'importe l'hiver qui cette année s'est étiré jusqu'à la fin avril, qu'importe que le poète ait pris froid dans la cour de l'Académie le jour de la réception de son ami Ferdinand de Lesseps, qu'importe si ce jour-là il resta nu-tête à causer de longues minutes alors que tout le monde gardait son chapeau, comme l'écrit le Figaro. Le journal conservateur voudrait bien donner à tout cela une dimension plus rationnelle. Victor Hugo s'est enrhumé et ces choses-là tournent mal à son âge. Mais qu'importe où, quand, comment, la grippe ou les graves épidémies du moment, c'est la faim et c'est l'orage. Peuple et gouvernement s'unissent dans une même attente. Seules les guerres et les catastrophes ont cet effet. Bien sûr, il est vieux et la vie n'a jamais rien promis d'autre que de s'en aller. La sienne a duré longtemps, 83 ans, mais si longtemps, si intense, si vibrante, si enroulée sur son temps, son siècle, ce 19e qui a cru au progrès mécanique de l'histoire, qu'on dirait qu'un astre va s'éteindre dans le ciel. La foule pressent le vide. Elle voudrait laisser planer encore la présence du poète, sa voix par-dessus et entre les hommes. Le poète à charge d'âme, c'est lui qui l'a dit. Et quelque chose d'électrique dans l'air montre qu'il y est parvenu. Alors, tous les autres, tous ceux qui prétendent également avoir charge d'âme, pesés sur les destins, s'approchent et s'accrochent aux mourants au bord de l'apothéose. Le président de la République et tous les ministres font prendre des nouvelles. Les socialistes, les libres penseurs, les anarchistes convoquent déjà des réunions. Mais de tous les sauveurs présumés, c'est de loin le clergé le plus inquiet. Il attend que le grand homme réclame un confesseur. Si Hugo persiste à refuser l'extrême onction, quel dangereux signal envoyé aux foules et au reste du monde. L'évêque Frépel est venu depuis Tours pour rallier le poète à la religion catholique. Il est reparti bredouille et furieux, sans même avoir approché le mourant. Le journal La Croix prétend que là-haut, ses amis font la garde autour du lit. Moins pour soigner le corps que pour empêcher à tout prix que l'on sauve son âme. Au premier étage, il se presse nuit et jour autour de son lit à colonne torse, dans la petite chambre tendue de soie d'un vieux rouge. Un tapis étouffe leurs pas. S'il parle, il l'écoute. S'il mange un peu de soupe, il le regarde manger. Ils ont toujours vécu ainsi, suspendus à ses faits et gestes. Et s'il ne dit plus rien, ferme les yeux, il fixe sa poitrine, qui se soulève encore, mais difficilement. Ou bien les objets qui leur sont familiers. Le chiffonnier de chêne sculpté à côté du lit. La justice de plâtre dorée tenant son glaive. Le grand meuble à deux corps dans lequel il enferme ses manuscrits. Le haut bureau à écrire debout, avec les feuilles Wattman. L'encrier à petits goulots, la plume d'oie noircie jusqu'à la barbe. Et la soucoupe pleine d'une poudre d'or dont il séchait les lignes fraîchement tracées. Et il se rappelle. Sa robuste silhouette, là, encore à la verticale, tel un arbre difficile à abattre. Souvent, les objets d'une vie qui s'en va deviennent sacrés. Ceux-là le sont déjà. La gloire s'en est chargée bien avant la mort. Étrange tableau autour du lit, qui prend toute la place dans la petite chambre. Ils tournent, piétinent, penchés, inquiets. Ils se tiennent à deux pas du malade ou bien tout près. Ils portent la marque de la tendresse qu'il leur a prodiguée, ou bien celle de son autorité sur eux. Et ils n'ont plus de mots aux lèvres sinon pour lui répondre quand il parle. Tous ont toujours laissé sa voix les remplir des secousses du pays, du monde. Ils restent sourds désormais au bruit de la rue. Ils reviennent à l'échelle de leur vie, aux épreuves traversées ensemble, à tous ces drames, tous ces morts chez cet ogre qui a enterré femmes et enfants à ces longues années d'exil sur ordre de l'histoire. La chambre est comme une presqu'île, fouettée une dernière fois par les tempêtes et les fièvres d'un seul homme. Chacun mesure son souffle sur son existence. Ses vieux amis, Auguste Vacry et Paul Meurice, ont l'air de disciples. Ils ont le front de plus en plus grand. Ce ne sont que les cheveux qui s'en vont, mais on dirait un trop-plein de souvenirs qui tambourinent sous la boîte crânienne. Ils ont tout connu, tout partagé, l'écriture, les risques, les idéaux, les deuils, l'éloignement. Ils ont vécu à ses côtés dans un mélange intense d'amitié et d'allégeance. Les convictions et les passions partagées valent ici les liens du sang. Celui d'Hugo ne coule plus que dans les veines de ses petits-enfants, Jeanne et Georges. Ils sont là. Ils vont sans manière vers l'oreiller, la bouche, le cou, le murmure du poète, comme des gamins habitués à venir le réveiller. Ils l'appellent papa. C'est Georges, tout petit, qui résuma ainsi ce que le grand-père ne cessait de leur dire. « Je ne suis pas papa. » C'est resté, mais non comme une négation, comme deux fois un père. Ils sont sa seule descendance encore debout. Enfant de Charles, le fils mort trop jeune pour qu'ils s'en souviennent. Ils ont 16 et 17 ans désormais, les traits intermédiaires de l'adolescence, plus rien de leur portrait aux joues rondes encore accrochées à la droite du lit. Mais parfois, ils détournent les yeux. Ils sont rattrapés par ces sanglots que seule l'enfance autorise, qui montent, tordent et déchirent les visages. Alors ils sortent, entraînés hors de la chambre par leur mère, Alice, longue silhouette épuisée. Elle les éloigne, puis revient. Elle prend la main brune et ridée du poète où brille un anneau d'or, et c'est comme si elle se rappelait le pacte entre eux. Elle perdit un mari quand il perdit son fils, et elle resta vivre auprès de lui, car il voulait ses enfants. Mais elle n'est pas demeurée Alice Hugo, veuve de Charles, comme il le désirait. Elle est Madame Locroix, depuis 8 ans. Édouard Locroix, son époux, est là, lui aussi. Il ne murmure pas à l'oreille du poète, ne pose pas sa main sur la sienne, son corps raide trahit les moments difficiles entre eux et toute l'admiration qu'il lui voue. Il était du clan bien avant d'épouser Alice, journaliste au rappel, l'ami des fils, mais il prit leur place et ne sut jamais si le poète le lui avait pardonné. C'est pas un livre qui va, à l'occasion de sa mort, faire un flashback sur son œuvre ou sur ce qu'il a été. Il y en a quelques-uns dont on a besoin. C'est pas un livre qui va tout reprendre. C'est justement un livre qui voudrait essayer de comprendre ce que cet homme a laissé à déposer en chacun de nous. J'ai essayé de reconstituer effectivement avec des recherches ce qui s'était passé. Et ensuite, j'ai voulu les mettre en mouvement, les faire parler, essayer de les mettre en image. Par exemple, effectivement, selon la vie qu'on avait eue avec Victor Hugo, on était plus ou moins près de lui, autour du lit, plus ou moins tendre, plus ou moins tactile. Et c'est prendre possession des lieux et des personnages, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces gens autour de son lit, mais ce qui m'a le plus surpris quand même, c'est la foule autour. Autour du lit, c'est le deuil des proches, et c'est très fort, très émouvant, mais quelque chose qui se répète, quelle que soit la mort, dans une maison. Tandis que ce qui se passait dans les rues, en bas de cette maison, avenue Victor Hugo, il y avait une foule immense qui grossissait de jour en jour après sa mort, qui faisait la queue pour laisser un message. Une foule très éclectique, des ambassadeurs qui passaient, mais des ouvriers aussi qui restaient, qui passaient la nuit là. Et cette foule-là, c'était la plus intrigante de toutes. Et par moments, effectivement, j'ai voulu m'attarder sur elle, faire des gros plans et comprendre pourquoi elle était là.
Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
C'est la chanson que j'ai choisie, c'est L'âme des poètes, qui a été chantée par Charles Trenet, Yves Montand, mais moi j'ai choisi par Juliette Gréco.
Leur chanson court encore dans les rues. Un jour, peut-être, bien après moi, un jour, on chantera. Cette terre pour bercer un chagrin ou quelque heureux destin fera-t-il vivre.
J'ai choisi cette chanson parce que c'est une chanson que je chantais quand j'étais petite fille avec mon père. C'est lui qui m'a appris cette chanson et je me souviens qu'un été dans les Cévennes, on la chantait en se tenant par la main et je crois que le goût de la poésie me vient de lui.
Merci Judith Pérignon.
Merci.
Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gaies, qui rendent tristes. Filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
C'était Judith Pérignon qui présentait son roman Victor Hugo vient de mourir, à paraître aux éditions de l'Iconoclaste. Les bonnes feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.